Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Tout reprendre à zéro. Le séjour de Inigo à l'université d'Alcala se situe entre mars 1526 et juin 1527. Il s'exerçait à donner des exercices spirituels et à expliquer le catéchisme. Et par ce moyen, il se faisait du fruit pour la gloire de Dieu. Dans son catéchisme, Inigo explique les commandements, la distinction des péchés mortels et véniels, des manières de prier, le tout éclairé par les évangiles et avec saint Paul et les autres saints. Les exercices consistent à faire un examen de conscience deux fois par jour, à prier pendant une demi-heure, à se confesser et à communier tous les huit jours. Inigo a réuni autour de lui quatre compagnons. Le groupe forme une ébauche de communauté religieuse. À cause de leurs vêtements uniformes, les gens les appellent les robes grises ou les illuminés, alumbrados, qualificatif à haut risque. Le terme d'alumbrados désigne un mouvement spirituel mal défini mais intense, lui-même inscrit dans la vaste mouvance du renouveau religieux qui secoue alors la chrétienté. La tendance des illuminés vise à laisser l'âme se remplir de la lumière divine. Dès lors, le croyant n'a plus besoin des sacrements, des prières traditionnelles, de la morale. En 1525, l'Inquisition condamne 48 propositions suspectes des alumbrados. Le groupe iniguiste ne tarde pas à attirer l'attention de l'Inquisition. Il va s'en suivre une longue série d'enquêtes et de procès qui s'achèvera seulement peu avant la fondation de la Compagnie de Jésus. Le premier procès aboutit à une sentence cocasse. Les inquisiteurs venus de Tolède interrogent quatre témoins, dont un franciscain auquel ils demandent ce qu'il sait, citation, « de certains jeunes hommes qui se promènent dans cette ville revêtus d'habits clairs de paysans, tombant jusqu'aux pieds, certains sans chaussures, lesquels disent qu'ils mènent une vie à la manière des apôtres. » Fin de citation. On ne trouve rien qui mérite reproche dans la vie et les doctrines du groupe. Mais, comme ils ne sont pas religieux, il n'est pas convenable qu'ils portent des vêtements semblables. Ergo, il est ordonné de teindre deux bures en noir, deux autres en fauve. La cinquième peut rester en l'état. Sentence du 21 novembre 1526. Le second procès se tient au printemps de l'année suivante. L'affaire est plus corsée. Un bon matin, Inigo se fait jeter en prison. Incarcération douce, car le détenu note avec humour qu'il faisait la même chose qu'en liberté. Il reçoit beaucoup de visiteurs, leur enseigne la doctrine chrétienne et donne les exercices. Inigo reste 17 jours sans connaître le motif de son arrestation. Le vicaire général de Tolède, Figueroa, vient enfin l'interroger. Connaît-il deux femmes, une mère et sa fille, qui se seraient enfuies d'Alcala par sa faute? Il connaît. Elles sont parties en pèlerinage contre son gré. Au retour des fugitives, Inigo est disculpé et libéré. Une sentence lui interdit néanmoins, ainsi qu'à ses compagnons, de parler des choses de la foi avant d'avoir étudié pendant 4 années. En d'autres termes, Inigo est réduit au silence pendant 4 ans. C'est trop. Il faut changer d'atmosphère. Il quitte Alcala pour Salamanque. Ses 4 compagnons l'ont précédé. Le séjour sera bref, juillet-août 1527, et pas sur les bancs de l'école, mais dans les chaînes de l'Inquisition. Toujours elle. À vrai dire, l'indomptable Loyola l'a un peu cherché. À peine arrivé, il choisit pour confesseur un dominicain du couvent de San Esteban. Le dimanche suivant, les pères l'invitent à déjeuner. Après le repas, la conversation se transforme en interrogatoire. « Que prêchez-vous ?»« Nous ne prêchons pas. Nous parlons familièrement avec quelques personnes des choses de Dieu. »« Tiens donc, et de quelles choses ?»« Nous parlons tantôt d'une vertu, tantôt d'une autre, et en la louant, tantôt d'un vice, tantôt d'un autre, et en le réprouvant. » Le dominicain étouffe. « Vous n'êtes pas instruit et vous parlez des vertus et des vices. Or, personne ne peut en parler sinon de ces deux manières, ou par savoir acquis ou par l'Esprit Saint. Or, ce n'est pas par savoir acquis, ergo, c'est par l'Esprit Saint. » Inigo est pris au piège du syllogisme. Il n'a pas d'instruction. Et s'il invoque la science par l'Esprit Saint, il aggrave sa réputation d'illuminé. Pis encore, le sous-prieur du couvent lui signale qu'à l'heure où se répandent tant d'erreurs d'Érasme et de tant d'autres qui ont trompé le monde, il n'est pas opportun de ne pas vouloir rendre compte de ce qu'il enseigne. Inigo se tait néanmoins, refuse de poursuivre cette parodie de procès. Les dominicains ne le lâchent pas, le consignent avec l'un de ses compagnons dans leur couvent et s'en vont quérir les juges de l'Inquisition. 3 jours plus tard, Inigo est jeté fers aux pieds dans une nouvelle prison avec des détenus de droit commun. Tous les membres du groupe, à l'exception du plus jeune, viennent l'y rejoindre. Il doit remettre le texte de ses exercices au juge. 4 d'entre eux viennent l'interroger. On le questionne sur les sacrements, la Trinité. Réponse satisfaisante. Concernant les exercices, un point les chicane, qui se trouve au début du livret. Quand une pensée est-elle un péché véniel et quand un péché mortel? Inigo esquive. Si c'est la vérité ou non, à vous d'en décider. Et si ce n'est pas la vérité, condamnez-la. Les juges ne condamnent pas. Comme leurs prédécesseurs d'Alcala, ils n'ont pas trouvé d'erreur dans la vie et la doctrine de Inigo. Il est donc relaxé et peut poursuivre son activité, enseigner le catéchisme, parler des choses de Dieu. Mais qu'il n'aille jamais dire « ceci est péché mortel, ceci est véniel » tant qu'il n'aura pas étudié pendant 4 ans. En apparence, Inigo est blanchi, mais Salamanque ferme les portes à son zèle apostolique. Il piétine pour cette question de distinction entre péché mortel et véniel. De nouveau, il sent qu'il est à un tournant. Et alors, il se décida à aller étudier à Paris. Décision doublement courageuse. Il ne connaît rien à la ville et à sa langue. En outre, des amis lui rappellent les guerres qui opposent l'Espagne à la France. Argument de peu de poids pour l'intrépide pèlerin. On va jusqu'à lui dire qu'à Paris, les Espagnols sont mis à la broche. Mais il n'eut jamais aucune sorte de peur. Inigo s'en va donc, seul et à pied, en emportant quelques livres sur un petit âne, et arrive à Paris le 2 février 1528. En poche, une lettre de change de 25 écus donnée par les fidèles bienfaiteurs de Barcelone. De quoi vivre une année. Ses études à Barcelone, Alcala et Salamanque ont été bâclées. À Paris, il reprend tout à la base et s'inscrit comme un martinet externe au collège de Montaigu, sise à l'emplacement de l'actuelle bibliothèque Sainte-Geneviève. Là, note l'autobiographie d'une phrase aussi dépouillée que possible, il étudiait avec les enfants en suivant l'ordre et la manière de Paris. À 37 ans, le fier Inigo López de Loyola, pour mieux suivre le Christ, ne trouve pas indigne de son grand dessein de se plonger dans les rudiments de latin.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.